Oui, un excellent texte, un très beau texte qui nous rappelle ce que notre Seigneur est. Justement, on va revenir du moins sur une pensée qui était dans ce texte-là. On va y revenir tantôt. Chacun d'entre nous, on a des projets. On a des choses qu'on a dans nos vies qu'on voudrait mener à terme. Et puis, avant de s'embarquer dans un projet, souvent, on va prendre le temps de considérer que ça soit, par exemple, une formation, un cours, que ça soit une relation, que ça soit un projet personnel, un défi, que ça soit une entreprise. Des fois, on s'embarque dans des projets et en cours de route, ça peut devenir difficile. Hein? Je ne sais pas si vous êtes comme moi, à un moment donné, en cours de route, on réalise que, oh boy, ça commence à demander des efforts. Ça commence à devenir difficile. Cette semaine, je suis allé essayer voir concrètement à quoi ça pourrait ressembler dans un petit projet. Je me réveille, je pense que c'est jeudi matin, 4h30, puis je suis plus capable de m'endormir. Fait que là, je fais jamais ça. C'est la dernière fois que je fais ça aussi, là. Je me dis, je vais aller courir. Je vais aller courir ce matin. Et il était peut-être pas mal de bonheur aussi. C'est peut-être pour ça que j'ai pas envie de le refaire. Mais je prends la piste cyclable, puis je me mets à courir sur la piste, et puis avec toutes mes bonnes intentions, puis ça prend pas grand temps, hein, que il me semble que le projet s'en vient difficile. Je voulais me rendre jusqu'à la rue Seigneuriale, puis revenir, puis j'ai réalisé qu'à un moment donné, mes ambitions étaient peut-être grandes, puis il fallait que je ralentisse un petit peu, je suis peut-être parti en grosse pompe, puis justement, ça pompait l'huile un peu. J'ai de la misère à avancer. Nos projets ressemblent à ça. On se réveille à un moment donné, on s'embarque dans quelque chose, et là, on réalise que on commence à avoir des difficultés. On commence à transpirer. Le cœur commence à pomper. Et la vie chrétienne ressemble à une course. La vie chrétienne ressemble pas à un sprint, où est-ce qu'on va sprinter un 100 mètres, après ça, c'est terminé, mais la vie chrétienne ressemble à un marathon. J'ai déjà donné cette idée-là comme réflexion. C'est-à-dire qu'on s'embarque dans la vie chrétienne, puis Dieu veut qu'on progresse, puis qu'on avance. Mais la persévérance, elle est extrêmement nécessaire dans la vie chrétienne. Comme quand on fait, par exemple, une course d'une demi-heure, il y a un moment donné où la persévérance est nécessaire, parce qu'on a envie de tout abandonner. Hein, on se dit, tant pis, moi, je reviens me coucher, je revire de bord. Et la vie chrétienne, il pourrait y avoir ce même défi-là, où on peut commencer plein de zèle, tout feu, tout flamme, puis à un moment donné, on commence à vivre les effets contraignants de l'effort, de la course, puis du marathon. Puis ça peut devenir difficile. Puis les efforts peuvent même devenir pénibles, puis ça fait mal. Puis même certains abandonnent la course. Même certains trouvent difficile à un point que de vouloir jeter la serviette. Et il ne faut pas perdre notre motivation. Parce que le désir que Dieu a, c'est de nous encourager. Dieu connaît et Dieu sait très bien qu'on a besoin de persévérance, qu'on a besoin d'avancer. Et vous savez, des fois, on parle du parfait petit kit, si je peux dire, du chrétien. Puis j'en ai apporté un ce matin. Je pense que le kit du chrétien devrait ressembler à ça. On devrait être prêt à transpirer. Je ne sais pas pourquoi ils mettent ça au poignet. Moi, je ne suis pas des poignets. Hein? Je devrais en vendre pour le dessus de bras. Puis là, on se met un bandeau. Puis là, on doit être prêt à transpirer. Le parfait kit du chrétien devrait avoir cette attitude-là. Je n'ai pas pris l'illustration de la nage. Hein? Je ne voulais pas avoir de l'air casse de bain non plus. Là. Mais la nage, j'imagine, ça demande de la persévérance aussi. Mais quand on est dans la vie chrétienne, il faut être prêt à transpirer. Il faut être prêt à un moment donné où il y a de la persévérance, puis on se dit, Dieu veut que je continue. Mais le bien qu'il y a avec ce Dieu qui nous aime tant, c'est qu'il veut nous motiver. Il veut nous encourager. Et dans le sport, là j'ai enlevé mon bandeau parce que je suis déjà tanné. Dans le sport, il y a, vous avez déjà entendu l'expression, hein, the mental toughness, hein, la dureté du mental. Les gens vont se dire dans le sport qu'ils doivent avoir une motivation constante et une persévérance qui commence par le mental, qui commence par des motivations profondes. La vie chrétienne, Dieu nous donne des motivations pour persévérer, pour continuer. Que quand ça va devenir difficile, que quand on va se mettre à transpirer, que quand on va commencer à avoir des difficultés, des tribulations, des épreuves, du découragement, Dieu va nous dire, continue, puis regarde les motivations qui sont là pour que tu avances. Et à travers le texte de Jacques ce matin, c'est ça qu'on va voir. Je vous invite à tourner avec moi dans Jacques 5. On va regarder les versets 7 à 11 ce matin. Et à travers ces versets-là, Dieu va nous enseigner comment garder notre motivation dans la persévérance. Parce que la persévérance, c'est quelque chose de difficile, quelque chose qui nous demande des efforts. Mais Dieu veut qu'on garde notre motivation. Dieu veut qu'on continue de persévérer. Les difficultés, si vous avez assisté les dimanches soirs, il y a quelques semaines, on avait une mini-série sur la souffrance. S'il y a un dénominateur commun à l'humanité, il y en a quelques-uns, j'imagine, mais c'est la souffrance. Job, il disait lui-même, « L'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. » On aura tous peur, si ça n'a pas déjà eu lieu, on aura tous peur à la souffrance d'une façon ou d'une autre. Et de là vont venir des difficultés. La souffrance et les difficultés font partie du monde dans lequel on vit et personne ne peut y échapper. Et ce matin, Jacques va aborder le sujet de la patience. Quatre fois, le mot patience va revenir. Le mot patience qui est là est différent du mot patience qu'il y avait, par exemple, dans Jacques, le chapitre 1er. C'est différent de la patience qui est d'attendre. Oui, ça a l'élément d'attendre, le mot patience qu'on va voir ce matin, mais c'est d'attendre patiemment dans la difficulté. Que moi, j'emploie l'expression persévérance. Ça a le même arrière-plan. C'est-à-dire, la persévérance, c'est de continuer d'être patient dans la souffrance, de persévérer. C'est l'élément qui aurait pu être traduit à travers le mot qu'on va voir ce matin avec Jacques. Et puis la persévérance ou la patience est la clé du paragraphe qu'on va lire. Comment quelqu'un qui a une foi authentique se comporte-t-il dans la souffrance? Où trouve-t-il sa motivation à continuer? Pour Jacques, l'important, c'est une foi authentique. Puis, ayant cette foi authentique-là, comment ça se vit au quotidien quand viennent les difficultés? J'aimerais qu'on fasse un mot de prière que Dieu nous dirige dans sa parole puis qu'il vienne nous parler ce matin à chacun d'entre nous. Seigneur, on vient devant toi pour te louer, pour t'adorer. Parce que tu es un Dieu qui est bon, un Dieu qui nous aime, un Dieu vivant, comme on vient de te le rappeler. Et Seigneur, t'es plus que conscient que des fois on a à souffrir sur la terre, qu'on a à être persévérant et que des fois cette persévérance-là est difficile, que parfois on peut même être à un point de vouloir abandonner ou à un point de découragement important. On veut ouvrir nos cœurs ce matin à ta parole, Seigneur, pour que tu viennes nous encourager, nous motiver, pour qu'on puisse continuer cette course avec toi, qu'on puisse continuer cette marche avec toi, même malgré les difficultés qui vont se présenter à nous. C'est au nom de ton Fils qu'on te prie ces choses. Amen. Alors, dans des difficultés, il y a des éléments de motivation des fois. Si il y en a qui courent régulièrement, votre motivation des fois va être soit de courir avec quelqu'un d'autre, soit de courir dans un beau paysage, soit de courir avec de la musique. C'est des éléments de motivation qui aident à aller plus loin un peu quand que la difficulté arrive. Quel que soit le projet, des fois, on trouve des éléments de motivation qui nous aident à aller plus loin. Avec la vie chrétienne, Dieu va nous donner cette motivation-là parce que Dieu veut t'encourager puis à retrouver ta motivation. Regardez les versets 7 et 8 ce matin. On va voir cette première motivation-là que Dieu nous donne. « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » Dieu veut t'encourager à continuer dans la persévérance, puis il te motive avec un objectif. Un objectif que chacun d'entre nous, qui avons une foi authentique, qu'on ne doit pas lâcher des yeux. Qu'on doit fixer les regards sur ça et trouver une profonde motivation à quelle que soit l'étape que l'on est présentement dans nos vies, à espérer à ça. Et cet espoir-là, c'est le retour du Seigneur. Hébreux 12.2, je fais juste le citer, il dit « Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. » Dieu veut qu'on court avec persévérance en le regardant et qu'on regarde le fil d'arrivée. Chacun d'entre nous, dans notre vie, dans notre relation avec Dieu, Dieu veut qu'on ait cette motivation-là à dire « Un jour, il va revenir. Un jour, ces tribulations-là, ces épreuves-là, ces souffrances-là seront terminées à cause du retour du Seigneur. Et on va le retrouver. » Le mot qui est là, c'est « parousie », qui est le mot grec traduit pour « la présence ou l'avènement », qui est un terme eschatologique, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est encore à venir. Le retour du Seigneur, Jésus, est venu une fois, et on parle du retour parce qu'il va revenir. Et l'avènement du Seigneur va se produire, regardez tout ce qui va se produire dans le futur, dans un futur que je crois personnellement imminent, dans un futur proche. Déjà, Paul, au temps qu'il écrivait, il disait, il parlait des derniers jours, des derniers moments, des derniers instants. Et là, on est encore plus proche présentement. On n'a jamais été aussi proche que ce qu'on est présentement. Le Seigneur va revenir bientôt. Et ce mot-là, l'avènement du Seigneur, est le mot qu'on retrouve le plus souvent dans tous les épîtres qui vont nous parler de son retour. Puis l'avènement du Seigneur Jésus est beaucoup plus qu'une venue. C'est le rétablissement ou l'établissement terrestre de son royaume, où il y aura un accomplissement final de notre salut. Présentement, si on a cette foi authentique-là, on est sauvé. Dieu nous a donné la vie éternelle. Mais on est encore soumis à la souffrance, on est encore soumis à la tentation, il y a encore le péché auquel on lutte. Puis quand le Seigneur va revenir, il y aura l'accomplissement final de notre salut, la victoire finale. Est-ce que vous avez hâte à ça? Est-ce que régulièrement ça fait l'objet de vos pensées? Est-ce que vous aimez imaginer ce jour-là où Jésus va venir nous chercher, où Jésus va venir rétablir son royaume sur la terre? C'est ça notre fil d'arrivée. Peu importe où ce que tu es présentement, peut-être que tu es dans la souffrance, peut-être que tu es dans la difficulté. Jacques est en train de dire, verset 7, « Soyez donc patients, persévérez, jusqu'à l'avènement du Seigneur. » Ça sous-entend qu'il y a encore un laps de temps. On a à persévérer jusqu'à là, jusqu'à ce moment-là où le Seigneur va revenir. Oui, il y en aura encore des difficultés. Oui, ça va nous prendre encore de la confiance, de la foi. Mais il faut continuer de lever les yeux vers le fil d'arrivée, qui est le retour du Seigneur. Jacques va donner un exemple. Il dit, « Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière saison. » Moi, je ne suis pas jardinier du tout, là, mais je comprends le principe. Et je suis sûr que peut-être vous avez déjà essayé, vous avez le pouce vert un petit peu plus que moi, vous avez déjà semé des choses. Et quand on sème la graine, ou peu importe qu'est-ce que c'est qu'on va semer, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut l'arroser. Mais Dieu s'occupe de la semence que le semeur peut avoir lancée, de la première jusqu'à la dernière pluie. Dieu va la faire pousser. Puis le laboureur, lui, le cultivateur, c'est quoi qu'il doit faire? Il doit attendre. Puis là, c'est une petite pousse qui sort, qu'est-ce qu'il fait? Il tire dessus. Ah non, ça ne marche pas, hein? Il n'y a rien à faire, il faut qu'il attende. Il faut qu'on attende. Mais c'est ça la patience que Dieu nous donne, que Dieu nous demande d'avoir dans la persévérance. Dieu nous dit de la même façon que le cultivateur doit attendre, attendez aussi. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de bien au bout de cette attente-là? Quand le cultivateur voit sa récolte qui pousse en abondance, qui donne du fruit, dont sa vie dépend, il va pouvoir le cultiver, le rassembler, mais il a dû attendre. Mais on a, nous aussi, à attendre à l'image du cultivateur, on a à attendre le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, de lever les yeux vers le fil d'arrivée, de s'attendre au retour du Seigneur, d'attendre notre salut final, l'accomplissement final du salut. Tout ce qu'on peut faire, c'est prendre patience, puis continuer d'avancer, puis s'encourager avec ce retour que Jésus va avoir bientôt. Et nous aussi, on doit attendre comme le fermier devait attendre. Et regardez ce que Jacques dit, verset 8, « Vous aussi soyez patients et affermissez vos cœurs. » Quand la souffrance, quand la difficulté, quand la première goutte de sueur commence, il peut y avoir du doute, du découragement, quand on est tanné d'attendre. Puis Dieu nous dit, affermissez vos cœurs. Fixez les yeux sur Jésus qui, lui, fait grandir la foi. On a besoin de retourner nos yeux vers lui, de tourner nos yeux vers lui pour qu'il nous rende solides, pour qu'il puisse établir ou confirmer ce qu'il est en train de faire en nous, d'avoir cette ferme résolution-là, le courage et une attitude d'engagement aussi. Ce que Jacques, ce que Dieu est en train de nous dire, c'est qu'il veut nous motiver à continuer. Mais il dit, soyez donc patients jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus. Je vais vous citer 1 Pierre 1, 6 et 7. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Que oui, il y en a des souffrances, oui, il y en a des difficultés, mais en persévérant, notre foi sera fermée. Et le résultat que ça a, c'est la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ va apparaître. Souviens-toi que le Seigneur revient bientôt. Ça va t'aider à persévérer. Ça devrait être pour chacun d'entre nous une espérance forte dans nos cœurs, ce retour-là. Dieu veut t'encourager à persévérer. Et il veut nous motiver par une simplicité de cœur. Imaginez que, prenons mon exemple, jeudi matin, je me lève à 4h30, et là, je décide d'aller courir, et puis je décide de traîner tout mon travail que je dois apporter. Je traîne ma valise, j'ai un sac à dos, je traîne ma gourde d'eau. J'avais justement une gourde d'eau dans les mains, puis je l'ai trouvé encombrant. Mais imaginons que on part faire un projet comme ça, on se lance dans quelque chose, puis on est encombré. Le découragement arrive encore plus vite. Les difficultés arrivent encore plus vite. Et on a besoin, pour avancer dans la vie chrétienne, être libre de tout fardeau qui nous décourage, qui nous pèse sur les épaules, pour qu'on puisse courir avec simplicité. J'emploie l'expression « simplicité de cœur » parce que ça sous-entend cette relation-là que l'on a avec les autres, où on peut avoir... on va lire le verset 9, vous allez comprendre. « Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. » Jacques est en train de nous dire, « Plaignez-vous pas les uns des autres. » Je vois la vie chrétienne un peu comme un voyage. On voyage pas seul. On voyage en groupe. Dieu nous a placés dans un corps. Dieu nous a placés dans son Église. Dieu veut qu'on voyage en groupe. Puis là, j'ai pensé à des voyages de groupe, puis j'ai pensé aux Israélites qui ont quitté l'Égypte puis qui devaient se rendre en terre promise avec différentes escales. Tu sais, vous voyez ce qui s'est passé dans ce voyage-là? Ça a chialé. Ça a chialé souvent. Il y a eu beaucoup de murmures. qu'est-ce qu'ils pouvaient se dire les uns des autres. Il est donc bien tannant, lui, il arrête pas de parler. Tu sais, il marche une journée dans le désert. Ou bien, coudon, lui, il arrête pas de rentrer ses sandales dans la tente, il aurait pu les laisser dehors. Ou bien, lui, coudon, il s'occupe pas de ses enfants, on a toujours ses enfants dans les jambes. Et là, ça murmurait les uns contre les autres, ça se plaignait les uns des autres. Et le voyage de groupe avait de l'air pénible. Et en plus que d'avoir marché dans le désert, puis que oui, ça devait être un peu difficile, j'imagine, mais ça leur a empiré leur situation. Ça leur a empiré leur situation, leur relation avec Dieu, et ça leur a rendu le voyage encore plus pénible. Notre marche sur la terre en tant que croyant ressemble à ce voyage-là, où Dieu nous dit, soyez patients, puis vous plaignez pas les uns des autres. On pourrait se dire à chacun d'entre nous, individuellement, oui, mais j'ai raison de penser ça. Hein? Nos raisons sont toujours bonnes pour se plaindre. À notre avis. Humainement, là. Je suis pas en train de dire que c'est bon, là. Mais humainement, nos raisons sont toujours bonnes pour se plaindre. Mais pourquoi s'encombrer de ces plaintes, de ces difficultés-là qu'on se donne nous-mêmes quand le voyage nous demande déjà beaucoup de persévérance? Les plaintes, c'est comme mon pack-sac que je traîne avec moi quand je m'en vais courir, quand je me plains de mon prochain. Regardez, tournez avec moi, on n'est pas très loin dans 1 Pierre 4. Juste un livre après. 1 Pierre 4, on va lire les versets 7 à 9. Pourquoi s'encombrer de ça quand c'est déjà assez difficile? La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure. Jacques, il dit la même... Excusez, Paul. On va l'avoir. Pierre, il dit la même chose. On va tout passer, les apôtres. La fin est proche. Soyez sages, soyez patients. Continuez, la fin est proche. Puis, ayez un ardent amour les uns envers les autres. On dit des fois, je pense peut-être à tort, que l'amour rend aveugle. Hein? On dit, certains vont répondre que le mariage rend la vue. Mais l'amour ne rend pas aveugle. Mais ce que Pierre est en train de dire, c'est que l'amour que j'ai pour mon prochain couvre une multitude de péchés. Ça veut dire que, oui, je pourrais avoir sujet de me plaindre. Oui, je pourrais être tanné de mon prochain qui agit ou qui parle, ou peu importe quelle est la bonne raison que je pourrais avoir pour me plaindre. Mais ce que Dieu me dit, c'est aime-le d'un amour ardent. Puis ça couvre une multitude de péchés. Ça m'aide à voyager beaucoup plus léger. Ça m'aide à avoir cette simplicité de cœur avec les gens où je porte pas toujours attention au mal, où je fais attention au mal que je dis, aux paroles que je dis. Un ardent amour pour mon prochain. À un moment donné, il y avait... Tantôt, on parlait du voyage de groupe pour les Israélites. Puis Moïse, il y en avait beaucoup de murmures contre lui. Il y avait même des gens dans son cercle restreint de proches qui même murmuraient contre lui. Marie et Aaron, son frère et sa sœur, ont commencé à se plaindre de Moïse. Ah, regarde sa femme, une Éthiopienne. Ah, c'est-tu rien que par lui que Dieu peut nous parler, là? Y a-tu par quelqu'un d'autre qui peut nous parler? Ça dit dans Nombre 12, verset 3, Moïse était un homme fort patient. Je pense que c'est le même sens que ce qu'on peut utiliser dans Jacques. Et ça dit, il était un homme fort patient plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Ça, c'est quelque chose. Hein? Moïse est un exemple pour nous aussi. Parce qu'il y avait plein de monde qui murmurait contre lui. Il y avait même Marie et Aaron qui murmuraient contre lui. Puis Moïse, il persévérait. Il continuait. Il voulait avancer et il se plaignait pas de ses prochains. Il voyageait léger. Ecclésiaste 7, 21 et 22 dit, « Ne fais donc pas attention à toutes les paroles prononcées. Ainsi, tu n'entendras pas ton serviteur te maudire. En effet, tu le sais dans ton cœur. Bien des fois, tu as toi-même maudit les autres. » Ça, c'est ce que Ecclésiaste nous dit. Ces relations des paroles qu'il y a vice et versa, qui nous cause bien du trouble finalement, où on se plaint les uns des autres. Dieu veut qu'on persévère. Dieu veut que quand que le moment difficile dans ma marche avec lui arrive, que je me mets à transpirer, mais Dieu me dit, attention aux plaintes et à ta relation avec les autres, parce que juste cet élément-là apporte beaucoup de découragement, puis ça pèse lourd sur les épaules en bout de ligne. Puis c'est encore plus difficile à persévérer dans ce temps-là. Vous plaignez donc pas les uns des autres. Puis l'exemple de Moïse devrait nous encourager. Est-ce que je peux passer ma vie chrétienne à constamment reprocher, accuser, me plaindre, à observer mon prochain constamment pour voir comment est-ce qu'il se comporte? C'est fatigant, ça. C'est beaucoup plus fatigant. Puis je dirais même plus, pour citer les Écritures, revenez avec moi dans Jacques 5, au verset 9. C'est un comportement que Dieu juge. C'est un comportement que Dieu reproche. On revient encore aux paroles, hein, aux étiquettes qu'on peut placer, aux plaintes que l'on peut avoir les uns envers les autres qui nous empêchent de persévérer convenablement. Bien, Dieu il dit, faites pas ça afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Le retour du Seigneur est proche. Les comptes à rendre que j'aurai à rendre à Dieu, à mon maître, c'est bientôt. Et Dieu ne veut pas que je me plaigne de mon prochain. Rechercher une bonne attitude envers mon prochain, ça va m'aider à persévérer. Dieu veut nous encourager à persévérer puis à continuer. Puis pour cela, Dieu nous place de bons modèles, nous permet de marcher, de courir avec des gens ou avec la mémoire de gens qui m'aident à persévérer. Un cheval de course, quand on veut chronométrer son meilleur temps, on ne va pas le faire courir tout seul. On va faire courir avec lui un autre cheval. Parce que le cheval qui court avec une compétition ou avec une motivation à ses côtés va aller plus rapidement. Dieu nous motive et Dieu nous encourage, pas nécessairement par la compétition, mais avec le soutien de ce que je me souviens des exemples du passé ou avec des bons modèles présentement, mais à persévérer puis à continuer. Et j'ai besoin de ce souvenir-là. Regardez, on va regarder ensemble toujours dans Jacques, les versets 10 et 11 au chapitre 5. « Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » Jacques, il dit, « Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. » On pourrait en citer, par exemple, Moïse, on en a parlé tantôt, qui a supporté les plaintes, les murmures des Israélites aux courroies rebelles qui venaient de quitter l'Égypte. On pourrait citer David, qui n'est pas nécessairement un prophète, mais qui a été persécuté par Saül, qui a été poursuivi comme une perdrix qu'on essayait d'abattre. On pourrait citer, par exemple, Élie, qui a été soumis au roi Achab, qui était soumis aux persécutions d'Achab et de Jézabel, sa femme aussi. Ça lui a causé bien des difficultés, une dépression probablement même. Jérémie qui a subi l'opposition dans l'exercice de son ministère, puis on pourrait en citer plein d'éléments de Jérémie. Ou Ézéchiel qui a supporté la mort de sa propre femme pendant l'exercice de son ministère. Ou bien Daniel qui a été arraché de sa terre natale pour être déporté à Babylone dans un endroit qui n'était pas le sien. On pourrait citer Osée aussi qui a eu un mariage qui lui a brisé le cœur. On pourrait citer Amos qui faisait face aux mensonges et au mépris. On pourrait citer Jean-Baptiste qui s'est fait couper la tête. C'est encourageant, ça? C'est ça que Jacques nous dit. Regardez ces modèles-là, comment est-ce qu'ils ont souffert patiemment. On regarde ça d'un premier exemple, d'un premier œil, puis on se dit, boy, est-ce que je suis prêt à vivre ça? Est-ce que je veux vivre ça? Mais ils ont été des exemples de patience dans la souffrance. Ils ont été des exemples. Et en quoi est-ce que ça, c'est encourageant? Regardez le verset, début du verset 11. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Pourquoi bienheureux? Pourquoi bienheureux ceux qui ont souffert patiemment? Pourquoi bienheureux ceux qui persévèrent et qui continuent d'avancer, même s'ils sont persécutés, même s'ils ont des souffrances, même s'ils sont, ils subissent la moquerie ou quoi que ce soit? Matthieu 5, 10 à 12, dans le Sermon sur la montagne, Jésus disait: heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Mais voulez-vous le royaume des cieux? Voulez-vous y être? Voilà une caractéristique d'une foi authentique, de quelqu'un qui est prêt à être persécuté pour sa foi. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on vous dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Oui, la persévérance est difficile. Jacques est en train de dire, soyez patient. Persévérez malgré les souffrances. Pourquoi? Parce que Jésus disait, votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Jacques est presque en train de citer textuellement le sermon sur la montagne de Jésus. Et Dieu veut nous encourager et nous motiver par ces exemples-là. Et même si on souffre, Dieu nous conduit vers ces bénédictions-là à cause de la persévérance. Tournez avec moi dans Job. Gardez votre doigt dans Jacques, on va terminer avec ça tantôt. Job 42. Dans Job 1, 22, ça dit que quand Job a perdu tout ce qu'il avait et que là, les premières gouttes de soir ont commencé parce que la persévérance s'en venait particulièrement intense, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. On va lire Job 42 dans quelques instants. Et Job, il disait au chapitre 13, verset 15, « Quand même, parlant de Dieu, il me tuerait, je ne cesserais d'espérer en lui. » Ça, c'était l'attitude de Job à travers les souffrances, à travers les difficultés. Et regardez ce que Jacques est en train de nous citer de Job au verset 12 du chapitre 42. « Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1 000 paires de bœufs et 1 000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Il donna à la première le nom de Jimina et la deuxième celui de Kétia et la troisième celui de Keren Apuk. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans. Il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la quatrième génération, et Job mourut âgé et rassasié de jours. » Jacques, il vient juste de nous citer Job. Considérez la fin de Job. Voyez comment est-ce que Job a persévéré, puis qu'il a trouvé ça difficile. Puis regardez la fin que Dieu lui a gardée. C'est un élément encourageant pour nous, motivant à persévérer. Est-ce que ma motivation à persévérer, c'est d'avoir 10 000 brebis, c'est quoi, 14 000 brebis, c'est pas ça ma motivation. Mais j'aurais pas de place pour les nourrir non plus, là. Ça serait bon de m'appeler, j'ai pas besoin d'attendre. Mais ma motivation, c'est pas tant d'avoir les bénédictions que Dieu donne nécessairement sur la terre, mais le fait que Dieu a vu la persévérance de Job et qu'il l'a béni et qu'il lui a donné, oui, sa bénédiction sur la terre. Jésus citait tantôt en disant, la récompense sera grande aussi dans le ciel. Voici la fin que Dieu a réservée à Job. Revenez avec moi dans Jacques 5. L'exemple de Job est encourageant pour nous quand on est éprouvé et qu'on supporte patiemment les épreuves, les difficultés. Comme les auditeurs qui étaient les destinataires de Jacques, qui voulaient encourager à persévérer. Verset 11, nous disons, « Bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job? » Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. C'est quoi l'attitude de Dieu quand on souffre? C'est quoi l'attitude de Dieu quand on se met à trouver ça difficile, quand notre course s'en vient pénible, est-ce que Dieu est au ciel? Il se dit, j'ai d'autres choses à faire que de m'occuper de mon enfant. Non. Est-ce que Dieu entend pas nos cris ou nos pleurs ou nos prières? Non, il les entend. Puis en prend particulièrement attention. C'est quoi son attitude? C'est quoi le caractère de Dieu quand on persévère? Est-ce que Dieu veut me motiver? Absolument. Dieu veut m'encourager à continuer. Il me donne des exemples auprès de moi. Il me donne des exemples dans sa parole qui m'aident à persévérer. Il me donne l'exemple de Job de dire, voilà mon caractère, il a souffert patiemment, puis je lui ai donné la bénédiction. La persévérance conduit à la bénédiction. Sans persévérance, il n'y en a pas. C'est ce que Hébreu nous dit clairement. Et regardez le caractère de Dieu, fin du verset 11. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Deux mots extrêmement rares dans le Nouveau Testament qui sont là. Miséricorde, qui a été traduit par, justement, miséricorde, qui est le mot grec, polis plainnos. Littéralement, on pourrait dire, plein d'entrailles. Dieu, ça lui prend au ventre de nous regarder, puis de nous voir persévérer, de voir les difficultés, ça lui prend au ventre. Avez-vous déjà eu une émotion semblable? Où ça vous prend en plein dans le vent, mais c'est exactement cette idée-là que Dieu vit comme quand il nous voit, quand il se tourne vers nous. Et l'autre mot qui est là, plein de miséricorde et de compassion, Dieu a pitié. Dieu est intéressé à nous. Il a pitié de voir nos souffrances, de voir nos difficultés, et ça lui prend au ventre. C'est ça l'attitude de Dieu. La persévérance, c'est dur. Mais Dieu n'est pas insensible à ça. Recherchons de bons modèles. Ça va nous aider à persévérer. Supporter d'être patient, que Jacques dit au verset 7, soyez donc patient. D'avoir la patience, même dans les difficultés, c'est possible. C'est difficile, mais Dieu veut nous encourager. En nous motivant par son avènement qui s'en vient bientôt. En nous motivant par un voyage léger, sans plainte les uns envers les autres, et en ayant comme exemple aussi des fidèles serviteurs du Seigneur, que Dieu place peut-être auprès de nous, mais des exemples que l'on a aussi du passé. Dieu veut pas qu'on baisse les bras, il veut qu'on prenne courage. Seigneur, on vient devant toi pour te louer pour ta parole, pour ce que tu as à nous dire. Tu nous encourages, Seigneur, à continuer. Puis des fois, continuer, c'est difficile. Des fois, on a envie de baisser les bras. Des fois, on a envie de prendre un break, de se retirer. Ton désir, Dieu, c'est pas ça. Ton désir, c'est de nous encourager. T'es rempli de compassion pour nous. T'es sensible, Seigneur, à notre égard, à ce que l'on peut vivre. Et merci parce que tu veux nous encourager. Tu nous rappelles que tu reviens bientôt. Un jour, tu vas revenir et tu vas accomplir, Seigneur, ce que tu as promis dans nos vies pour le salut. Merci, Seigneur, parce que tu nous rappelles que de se plaindre les uns des autres, c'est plus à notre préjudice que pour se faire justice. Et je veux te louer, Seigneur, de nous rappeler cette vérité et de nous rappeler aussi ces bons modèles que l'on peut avoir dans ta parole et de voir ton caractère, comment est-ce que tu bénis à travers la persévérance. Comment est-ce que tu as béni Job à travers sa patience. Les prophètes aussi qui ont parlé de ton égard. On veut nous aussi s'engager, Seigneur, à continuer. À fixer les yeux vers toi, à courir vers la carrière qui nous est ouverte et avoir les yeux placés en toi. Dans le nom de ton Fils Jésus, qu'on te prie ces choses. Amen.